critique pour le permis Dominique Philippe le 23 mai 2002 à Saint-Gilles.
Nous avons vu la dernière fois cette abstraction universelle, à cinq branches qu'il ne faut jamais oublier. Cette abstraction universelle, nous la faisons sans en avoir conscience. Il faut réfléchir et vouloir réfléchir pour en avoir conscience. Autre chose est dire animal, autre chose est dire raisonnable, autre chose est dire homme, autre chose est dire capable de rire, autre chose est dire... Oui. Et chaque fois, il y a une abstraction universelle qui se fait. Elle a cinq modalités. Alors on pourrait chercher pourquoi cinq modalités. Alors je vous avais dit, nous avons cinq sens. Il y a sûrement, ça n'a jamais été cherché ça, mais il y a sûrement une dépendance en raison de l'expérience. Dans chacune de nos expériences, il y a un des sens particuliers qui domine. Des expériences beaucoup plus visuelles, des expériences beaucoup plus tactiles, des expériences beaucoup plus auditives, des expériences de l'odorat dans les pays chauds, dans les pays froids, l'odorat se développe moins. Dans les pays chauds, l'odorat se développe beaucoup plus. Très curieux ces choses-là. Et alors, c'est intéressant. Je me suis amusé un certain temps d'essayer de voir les correspondances des cinq prédicables, on appelle les prédicables, hein, les cinq universaux qu'on a, génériques, différents spécifiques, espèces, propriétés, accidents. Ça, il faut le savoir par cœur. Hein. Il faut que ce soit connu comme une base radicale. Et ça, vous pouvez faire facilement vous-même. Hein. Et voir qu'à partir de ces, je veux dire, ces cinq universaux, nous, on les acquiert à partir de l'expérience. Et notre expérience a cinq modalités différentes. Ordinairement, on ne regarde pas beaucoup ces modalités, mais il y a cinq modalités différentes. Et donc, chaque fois que votre expérience met en lumière le point de vue tactile, par exemple, l'imagination, puisque je comprends tout le temps grâce à l'imagination, l'imagination est différente en fonction des cinq sens. Il y a des gens qui ont une imagination merveilleuse au point de vue tactile, une imagination merveilleuse au point de vue vision. Vous voyez, il y aurait à développer tout ça. Et c'est intéressant de voir que vous avez cinq modalités d'imagination. Votre voisin n'a pas la même imagination que vous, en fonction de sa culture. Il est évident que un petit bonhomme qui est élevé avec son père très musicien va avoir une imagination auditive très différente que celui qui a son père qui est laboureur. C'est pas la même chose. et causer à un homme de la terre, causer à un juriste, la vision du monde est différente. Causer à un journaliste, il a une vision du monde qui n'est plus réaliste du tout. En faisant, qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que vous avez vérifié de savoir ce qui est la réalité ? Ce qui est... Ah non, non, ce qu'on dit. Oui. Donc, il faut arriver à être très sensible à ça. Parce que notre intelligence nous permet de discerner. Si nous ne discernons pas, c'est parce que on n'a pas eu le courage de pousser son analyse jusque-là. Rien ne pénètre dans mon intelligence qui n'est passé dans mes sens. C'est mes sens qui sont en contact avec le réel. Et l'opération sensible a été au point de départ d'une image. Mais les images sont différentes selon que vous avez un sens du toucher très développé, un sens de l'ouïe très développé, un sens visuel très développé. Autrement dit, vous avez 5 formes d'imagination. On est bâti comme ça. Et quelqu'un qui est né aveugle, c'est extrêmement curieux de voir comment ce sens qui n'existe pas, malheureusement, va permettre aux autres sens de se développer et de remplacer la négation qu'il y a. Il ne voit rien, mais il touche. Un aveugle a un sens tactile bien plus développé que celui qui voit et celui qui regarde. Et c'est très curieux, du reste. Quand vous commencez à perdre la vision, vous développez beaucoup plus le sens tactile. C'est les deux extrêmes, hein, la vision et le sens tactile. Et votre imagination, elle provient des sens externes. C'est, l'imagination est purement immanente, mais elle se développe à partir des expériences. Mon imagination se développe, et cette imagination va être illuminé par l'intelligence. Et de cette imagination va sortir ce que nous appelons l'espèce, species, la forme intelligible, la première forme intelligible. Et ces formes intelligibles sont nécessairement différentes suivant que votre imagination est très liée au sens du toucher, au sens de la vision, au sens de l'ouïe. Et tout cela, on n'en parle pas beaucoup, mais on doit savoir que ça existe. Et c'est important au point de vue éducatif. Mais vous êtes incapable, je crois, de dire la première fois vous avez atteint une connaissance abstraite. Le passage pour l'enfant de papa à homme. Papa, c'est l'expérience directe. Papa, il a une barbe. Et c'est la barbe qui sait comprendre que c'est papa. Le sens du toucher. Un petit gosse a un sens très fort du toucher. Et c'est toujours la première chose, quand un gosse a peur de vous, vous le touchez. Et au bout de 2 minutes, le toucher, ah, le rend familier avec vous. Et c'est vrai, le toucher est un sens très fondamental. C'est le sens du réel. Quand vous portez un jugement d'existence, ceci est, votre toucher est toujours présent. Le sens du toucher qui est le plus fondamental, le plus réaliste. La vision, on a des hallucinations. Ça existe. Les hallucinations au point de vue du toucher, c'est beaucoup plus rare. Ça peut exister. Ah, j'ai cru être touché. Oui, il y a un ange qui m'a touché. Là, une hallucination assez facile. Mais les hallucinations au point de vue vision, ah, j'ai vu un archange. Alors il est comment l'archange? Ah, je sais pas, tant que vous ne l'avez pas vu, je ne peux pas vous le décrire. Alors l'imagination passe. C'est très curieux ces phénomènes de l'imagination qui l'emporte sur le sens externe. Et votre abstraction se fait à partir de l'image. Donc il n'y a pas d'abstraction sans image. Toujours. Et les images ont 5 modalités. Et l'abstraction universelle, genre. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Le réalisme que nous devons avoir dépend de cela. De l'image, on a abstrait ce qu'on appelle la species, l'espèce, qui exprime l'aspect générique, spécifique, les cinq prédicables. Alors, les cinq prédicables, il faut soi-même bien les déterminer. Nous avons vu, à partir de là, le premier aspect scientifique avec l'abstraction mathématique. Et l'abstraction mathématique se fait par l'intelligence sur les fantasmes. C'est toujours sur les fantasmes. Le fantasme a une très grande richesse et vous pouvez le séparer du réel. Ah, c'est le propre de l'abstraction mathématique. Elle va atteindre le possible. Et elle va séparer. L'abstraction universelle, elle est naturelle. Vous n'y pensez pas. Vous avez appris par le langage la différence entre papa et homme. Et tout le langage repose sur l'abstraction universelle. Tandis que là, vous commencez à avoir ce qu'on dit une abstraction formelle. L'abstraction formelle se fait dans une séparation de deux éléments. Vous séparez le divisible de ce qui est. C'est déjà quelque chose qui implique la volonté. Je veux faire des mathématiques et j'apprends à faire des mathématiques. Et je sais qu'en faisant des mathématiques, je ne suis plus dans le réel que je touche. Je suis dans un domaine du divisible. Le divisible numérique, le divisible quantitatif d'extension, plus exactement, c'est plus juste. Il y a l'arithmétique et la géométrie, deux abstractions différentes. Et l'abstraction mathématique peut aller de plus en plus loin. Elle commence en séparant. Vous voyez, je parle là d'une séparation, parce que c'est la volonté, c'est le jugement qui fait cela. Je sépare deux mondes, le monde sensible que j'expérimente directement au monde imaginaire, mais une imagination qui n'est pas romantique, qui n'est pas affective, une imagination qui est sous l'emprise de l'intelligence. C'est ça qui est très curieux. Et je saisis alors le divisible. Et je n'ai pas conscience tout de suite, au début, on apprend les mathématiques et on ne réfléchit pas sur ce que c'est. On apprend les mathématiques. Je me souviens de cette mère qui était la sœur d'un de mes frères, Dominica, qui me disait la réaction de son enfant qui avait assisté au premier cours mathématiques de son professeur. Il est rentré chez lui, furieux, en disant, mon professeur de mathématiques, il est tout gosse, hein. Je ne sais pas quel âge il a, le premier cours mathématiques. Mon professeur, c'est un imbécile, professeur de mathématiques, c'est un imbécile. Il a dit 1 et 1, 2. Mais non, 1 et 1, 1. Alors la mère, lorsqu'il a pris son bain, lui a lancé une balle. Tu vois, une balle. Puis deux balles. Un autre mot. Ah, mais il n'a pas dit ça. Le professeur n'a pas dit ça. Il a dit 1 et 1, 2. Et 1 et 1, 1. Il aurait dit une balle et une balle, ça fait deux balles. Très bien. Alors sa mère était affolée. Qu'est-ce que je lui réponds ? C'est très joli de voir ça. C'est les diverses abstractions. On a abstrait une balle, deux balles, une balle plus une autre balle, ça fait deux. Et tandis un et un, un. Alors sa mère a été voir le professeur de mathématiques. Elle dit, Alors, le professeur de mathématiques dit oui, il comprend rien du tout. Il comprend rien du tout. Alors, la mère a très bien compris qu'il y avait une opposition de caractère entre son fils et le professeur de mathématiques, et que par le fait même, empêcher une certaine abstraction. Et ça m'a beaucoup, c'est très intéressant de voir ça. Et c'est vrai, quand un professeur de mathématiques vous est antipathique, vous opposez le réel, un et un, un. Vous restez dans l'identité et vous n'ajoutez pas quelque chose d'autre. Parce que les mathématiques, c'est dans le divisible. Donc ça s'ajoute. 1 plus 1, 2. Vous additionnez. L'addition. Hein, l'addition, c'est quelque chose de très particulier. L'addition, c'est votre intelligence. La première opération de l'addition. Vous restez dans le divisible. Et le divisible s'additionne. Ou ça se soustrait. La différence entre la connaissance mathématique et la connaissance métaphysique. Métaphysique, là, l'identité. Ça ne s'additionne pas, l'identité. Un, propriété de l'être. Un, mathématique. Quantité. Ce gosse avait un sens métaphysique contre le point de vue mathématique. Et le professeur, à la place de dire une balle plus une autre balle, deux balles, il a commencé tout de suite à dire un et un, deux. Et le résident, c'est très curieux de voir que fond la connaissance mathématique abstrait du sensible, mais n'abstrait pas de la quantité. La quantité, c'est le divisible. Et vous maintenez toujours le divisible dans la connaissance mathématique. Un divisible très, très affiné. Très profondément affiné, mais le divisible est toujours là. Alors, seule l'intelligence est capable de faire cette séparation du sensible existant, parce que le divisible n'existe pas en dehors de l'abstraction. Le divisible est toujours sensible. Vous êtes dans le monde sensible. Et pourtant, l'intelligence est capable de séparer le divisible du sensible. Et l'abstraction mathématique, c'est justement le divisible, où l'imagination intervient. Le divisible, c'est pas l'être. Alors vous avez là trois aspects. L'être, le point de vue sensible et le point de vue quantitatif. Donc, la première abstraction formelle, c'est de se séparer du sensible et de demeurer dans le divisible. Et c'est ce qu'on appellera l'abstraction mathématique. Et l'abstraction mathématique, elle est le premier type d'abstraction. On est dans un domaine séparé du sensible, donc séparé de l'existence. Et on est dans un domaine imaginatif, possible. Et c'est tout ce qui peut se réaliser dans le champ du divisible. le divisible implique la matière, mais pas la matière sensible, une matière déjà, on va dire, intellectualisée. C'est ça qui est très curieux. C'est le divisible mathématique reste quelque chose de conforme à une imagination très intellectualisée, très spirituelle. Spirituelle dans le sens que l'intelligence est présente et elle abstrait. Je ne développe pas ça. Troisièmement, l'abstraction formelle, ce qu'on appelle l'abstraction formelle, c'est celle qui implique une division. On sépare. On ne veut pas regarder le sensible. Et on veut regarder uniquement le divisible. Et je suis conscient de ce que je fais. Le mathématicien n'en a pas toujours conscience, mais il peut réfléchir sur ce que représente l'être mathématique. Et c'est intéressant de voir ce que c'est que l'être mathématique. L'être mathématique n'est pas l'être réel. Quand vous dites ceci est, c'est pas un jugement mathématique. C'est un jugement tout simplement réaliste. Ceci est. Je touche quelque chose qui existe. Quand je donne la main à quelqu'un, je touche quelqu'un qui existe. Quand je pense mathématique, je ne touche pas une réalité qui existe, mais je touche une réalité que mon intelligence fait exister. Le domaine mathématique est propre à l'homme. C'est l'homme qui donne l'existence à cet être divisible. Vous n'avez jamais vu un être non sensible. Vous n'avez vu que des êtres sensibles. Autrement, vous ne le verrez pas. Vous ne le voyez pas, l'être mathématique. Vous le pensez. Alors, vous voyez, cette séparation entre le domaine de ce qu'on voit et le domaine de l'intelligence. L'être mathématique est un être qui n'existe que dans la pensée humaine. Il a un fondement réel, mais lointain, pas direct. L'être mathématique renvoie à l'intelligence du mathématicien. Il n'existe pas. Il n'y a pas de jugement d'existence en mathématiques. Il y a des relations. Et c'est toujours ce point de vue relatif. L'être mathématique est un être relatif. Relatif, et il n'existe que dans la pensée du mathématicien. Il n'existe pas réellement comme être mathématique. Les mathématiques ont un fondement dans la réalité, mais ce fondement dans la réalité est plus ou moins proche. C'est pour ça qu'on peut se servir des calculs mathématiques pour mesurer le réel. Mais en réalité, il ne mesure pas le réel existant, mais le réel que mon intelligence peut atteindre. Donc l'abstraction mathématique représente un type d'abstraction très particulier. et très intéressant, du reste, typiquement humain. Je crois que les mathématiques ont cet immense avantage et cette immense séduction que je suis dans mon domaine, le domaine humain. C'est une science qui se développe grâce à l'intelligence humaine. Je puis aussi atteindre l'être de ce qui est. Je ne reste plus dans le divisible, j'atteins le point de vue de ce qui est, dans un jugement d'existence. Et en pensant à ce jugement d'existence, ceci est. Le passage de ce qui est possible à l'être actuel. Et je veux saisir dans cet être actuel ce qu'il y a de plus être. Donc, il y a là un nouveau degré d'abstraction. Et l'abstraction métaphysique. Entre deux, il y a toutes les abstractions possibles qui dépendent des mathématiques. Toutes les sciences dépendent des mathématiques. Toutes sont l'abstraction mathématique de telle ou telle manière. Mais il y a toujours une dépendance. C'est pour ça que je peux appliquer les raisonnements mathématiques à toutes les sciences. Et on voit que plus une science veut être science, plus les mathématiques interviennent. Prenez en médecine. Interrogez les étudiants de médecine si vous n'êtes. Il voit que la médecine, de plus en plus, le raisonnement mathématique intervient. Mais la médecine, puisque elle est un art et non pas une science, elle doit rester toujours en relation avec le corps humain. Donc, à ce point de vue-là, elle ne peut pas s'abstraire du corps humain, le corps humain existant, pas le corps humain possible. Elle peut s'égarer dans le corps humain possible, c'est-à-dire la santé parfaite du corps humain, ce qui n'existe jamais. Et toutes les erreurs du médecin viennent de là, parce qu'il regarde la santé possible, parfaite. Vous voyez, au fond, il tombe dans le point de vue de Platon. Vous voyez le lien avec Platon et les mathématiques. Pour Platon, les mathématiques sont nécessaires à la connaissance métaphysique de l'être. Je prolonge mes connaissances mathématiques jusqu'à l'être. Mais je reste toujours dans l'être divisible. Il y a une nouvelle abstraction qui consiste à saisir l'intelligibilité de l'être considéré en lui-même. Comme être. C'est pour ça qu'Aristote dit la métaphysique regarde le toon et on, le tuon eon, c'est-à-dire ce qui est en tant qu'il est. Non plus dans sa divisibilité, mais dans son intelligibilité d'être. Vous voyez, alors, vous avez trois types d'abstraction. Ça, il faut bien les voir. L'abstraction universelle, l'abstraction mathématique, et puis l'abstraction métaphysique, où vous regardez l'être sous le point de vue de l'être, l'être en tant qu'être, et vous essayez de saisir ce qui est propre à l'être en tant qu'être. Alors quand vous dites l'être en tant qu'être, on dit vous réduplez sur être, parce que l'être, je peux le regarder de multiples façons. Quand je touche un petit chat, je dis comme cet être est doux, le poil du chat. Vous touchez l'être qui existe, sensible. Quand vous regardez le point de vue mathématique, c'est extraordinaire, tout le domaine de la quantité, formalisé par l'abstraction mathématique. Et vous dites, mais ça n'existe pas, ça existe dans la pensée du mathématicien. Or, l'être métaphysique, il existe réellement. Mais il n'existe pas comme être réellement. Heureusement. Il existe sensiblement. Mais saisir l'être métaphysique pour lui-même, c'est nécessairement redupliquer sur ce que mon intelligence veut saisir dans la réalité concrète. L'intelligence veut saisir l'intelligibilité de ce qui est, de sorte que la connaissance métaphysique comme métaphysique n'existe que dans le métaphysicien. Mais un fondement réel, direct, que j'atteins dans ce qui est. Et je vois que le métaphysicien doit toujours rester en contact avec ce qui est. Il distingue et il peut distinguer le possible, l'idéal et ce qui est. Mais son jugement de métaphysicien toujours se ramène à ce qui est. Autrement, il partirait dans un beau rêve. Alors, vous voyez très bien comment, du moins, j'espère que vous voyez comment l'abstraction mathématique peut très bien se donner comme un absolu. Husserl, ne l'oublions pas, Husserl a été d'abord un matheux. Il a fait une thèse mathématique et il a voulu pousser l'abstraction mathématique jusqu'au bout. Et des mathématiques, il est passé à la philosophie. Et au fond, il a fait ce que Platon avait fait. Platon considérait que l'abstraction mathématique était nécessaire à l'abstraction métaphysique. Aristote considère que l'abstraction mathématique, elle est laissée de côté. Oui, c'est la grande différence entre Aristote et Platon. Et ça se retrouve dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est très curieux et très intéressant, parce que ça montre bien que c'est dans l'homme, l'homme du temps de Platon et d'Aristote, l'homme aujourd'hui. La différence, c'est que les mathématiques se sont développées énormément. L'emprise des mathématiques est énorme aujourd'hui. Et par le fait même, très facilement, on passe des mathématiques à l'être métaphysique. Et c'est pour ça que Husserl, quand il aborde l'être métaphysique, en réalité, demeure dans la relation. Il n'atteint pas l'être mathématique qui n'atteint pas l'être métaphysique qui est ceci est. Oui, l'abstraction métaphysique a ceci de particulier, c'est qu'elle doit saisir dans la réalité, que ce soit l'homme ou le petit chat ou l'arbre, ce qui est dans le chat, dans l'homme, dans l'arbre. Ces trois réalités existent. Elles existent différemment, tout à fait différemment. Autre chat est l'existence du chat, autre chose est l'existence de l'homme, autre chose est l'existence de l'arbre. Mais il y a quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, c'est l'être. Le petit chat existe, j'existe et l'arbre existe. La pierre existe. Et on ajoute la pierre. On ajoute la terre, elle existe. Je pousse donc l'abstraction plus loin. Je sépare par mon intelligence dans ce qui existe réellement. Je sépare ce qui est proprement de sa modalité particulière. J'existe, moi, comme la pierre qui existe, mais j'existe selon une manière différente. La pierre existe selon sa matière. Le chat existe comme un vivant. Alors vous voyez là, tout de suite, j'arrive à distinguer, à discerner ce qui est propre à les dénominateurs communs entre la pierre et moi-même, entre la pierre et le vieux. Je saisis son être qui est commun, mais qui existe de trois manières différentes. Arriver à discerner cela, je suis là à un discernement ultime pour distinguer et discerner l'être, ce qui est, de tel être. Et je fais ce discernement entre l'être. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans la pierre et moi-même ? C'est que nous existons. La pierre existe. J'existe. Le chat existe. Mais nous existons chacun de manière très différente. Mais il y a quelque chose de commun. Vous voyez ? Toujours arriver à discerner ce qu'il y a de commun de ce qu'il y a de propre, d'unique. Et cet ultime discernement se fait au niveau de l'être et des transcendentaux. Ça, on verra ça la fois prochaine. Et forcément, nous touchons là l'ultime abstraction. L'ultime, et cette abstraction a ceci de très particulier, qu'elle est comme une séparation. La distinction de ce qu'est l'être en lui-même, de ses différents modes.